Alors, moi je suis le modérateur, le médiateur de la soirée. Je me présente, Christophe Chiclet, je suis membre du comité de rédaction de la revue Confluence Méditerranée. Je suis historien et journaliste et je travaille aussi sur les Balkans, la Grèce et Chypre et la Turquie, mais beaucoup plus dans un domaine d'analyse de la situation contemporaine. Alors, je vous présente donc mon collègue et ami Olivier Delorme, qui est agrégé d'histoire, qui a longtemps travaillé à l'Institut Charles de Gaulle, qui a été aussi maître de conférence à Sciences Po Paris, et qui, entre autres ses qualités d'historien, est aussi romancier. Il a publié, au jour d'aujourd'hui, 6 romans. Alors, dans son travail éditorial, tant au niveau historique qu'au niveau littéraire, il y a toujours la Grèce au milieu de toute son œuvre. Bon, il faut dire que c'est un grand philhellène. Comme il en existe pas mal en France, le mouvement philhellène est assez développé en France, puisque au gré de la vie et de la mort des associations, on peut considérer que nous avons en France entre 40 et 80 associations philhellènes, gréco-françaises, franco-grecques, sans compter les communautés. Donc en plus de ça, il a la chance de passer beaucoup de temps de sa vie dans la petite île de Nisiros, dans le Dodécanèse, un jet de pierre de la Turquie.
Ah oui.
Mais alors je ne sais pas qui va jeter la pierre à l'autre, parce que là, on risquerait de rentrer dans des problèmes à la chypriote. Et il y a quelques années, Olivier m'appelle, il me dit, voilà, il y a Gallimard qui me propose d'écrire, de travailler sur ce sujet, l'histoire des Balkans, qu'il a un peu, mais ça tu le diras mieux que nous, un peu recentré sur la Grèce et les Balkans. Et à l'époque, je lui ai dit, mais t'es complètement fou, comment tu vas faire ça? C'est une somme, c'est impossible à faire tout seul. Et finalement, il a relevé le défi et de façon magistrale, mais ça a pris au moins 3 ans.
Cinq.
Donc, un travail de longue haleine. Alors, en plus, j'ai eu la chance, parce qu'il m'a demandé que je lui corrige certains chapitres, en particulier les chapitres que moi, je connaissais, c'est-à-dire sur la Grèce contemporaine, de l'époque de la Résistance, de la guerre civile et après. Donc, j'ai pu avoir un aperçu, avant vous, de la qualité de l'ouvrage. Et c'est vrai que c'est une véritable somme. Et en plus, mais ça tu nous en parleras, l'avantage c'est que tu as réussi à négocier, je ne sais pas le terme, mais avec Gallimard, pour que ça ne soit pas un énorme bouquin de ce format-là, comme ça, impossible et cher. Or, Gallimard a accepté que ça soit en collection Folio. Ça fait 3 petits livres très faciles à lire, entre Bordeaux, Saint-Jean et Montparnasse, par exemple, entre autres, mais pas uniquement, entre Bordeaux et Athènes, Paris et Athènes, et à un prix, somme toute, plus que modique, puisque vous avez quand même, pour un peu plus de 10 euros, vous avez à chaque fois au moins 700 pages.
Oui.
Donc là, je trouve que Gallimard a très bien joué le jeu. Là-dessus, ils ont été corrects, parce que moi, je m'étais dit, ça allait être encore un livre, un peu un pavé, plus ou moins indigeste, au niveau du format et au niveau du prix, pas du tout. Alors, moi, je pense, pour moi, c'est un outil de travail. Parce que quand j'ai besoin de faire un article partant de l'actualité, mais que j'analyse, j'ai pas tout en tête. Donc, j'utilise, en particulier le tome 3, je l'utilise comme une référence que je me trompe pas sur une date précise, à l'époque de Métaxas, des colonels, etc., etc. Pour moi, c'est un outil de travail. Mais c'est quelque chose, c'est une somme. Et cette somme-là, avant, il n'en existait pas beaucoup. C'est-à-dire que vous aviez, chez Fayard, une histoire de l'Empire ottoman, qui était déjà une somme, et puis aussi du professeur émérite Georges Castellan, une histoire des Balkans, qui a été publiée il y a presque 20 ans,
je crois. Il y a 20 ans, oui.
Oui. Alors, le livre de Castellan était très bien, mais Castellan n'est pas un helléniste, c'est un slaviste. Donc c'est vrai que les chapitres concernant la Grèce dans la somme du professeur Castellan étaient un peu faibles, voire il y avait quelques petites incorrections. Alors que là, le travail qui a été fait, mais je vais laisser la parole à mon ami, moi, à mon avis, c'est une somme qui sera difficilement... je veux dire, on ne pourra pas faire mieux avant une vingtaine d'années. Et si Dieu nous prête vie, tu feras le tome 4.
Tome.
Voilà. Je laisse la parole à mon ami Olivier.
Non, mais écoute, d'abord, il faut dire quand même que Christophe est aussi l'auteur d'un livre de référence sur la période de la résistance, le Parti communiste grec dans la guerre, dont je me suis beaucoup, beaucoup servi. Naguère pour mon premier roman, puisque mon premier roman traitait déjà de la résistance grecque, et de nouveau pour celui-là, pour retrouver un certain nombre de choses. Donc c'est vrai que ce livre manquait dans l'historiographie française. Pourquoi ? Parce que, en quelque sorte, comme tu le dis, il y a deux grandes écoles dans l'université française, qui sont l'école slavisante et l'école turquisante. Et donc, dans les études françaises, la Grèce, c'est toujours la marge méridionale du monde slave ou la marge occidentale du monde ottoman. Et elle n'est jamais traitée pour elle-même. Et alors, le bouquin de Castellan a d'énormes qualités et m'a beaucoup servi dans mon travail de documentation, de bibliographie, etc. Mais c'est vrai que je mets quiconque au défi de comprendre les logiques internes à l'histoire grecque à partir de Castellan. C'est-à-dire que on a des grands développements sur l'histoire de telle ou telle région des Balkans, et puis en fin de partie, on a tout d'un coup un petit chapitre grec qui apparaît comme complètement déconnecté du reste et dans lequel on ne voit pas du tout se développer un lien. Alors l'idée de départ de ce livre, c'était une histoire de la Grèce. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai apporté ce projet à Gallimard, c'est Gallimard qui m'a demandé de traiter ce sujet pour des raisons et parce que Gallimard, il y a chez Gallimard une éditrice que j'ai connue justement, à qui j'ai travaillé au moment où j'ai travaillé à l'Institut Charles de Gaulle, qui connaissait ma passion pour la Grèce et qui, arrivant chez Gallimard, m'a dit « Mais Olivier, pourquoi tu ne m'écris pas une histoire de la Grèce ?» J'ai regardé, ça n'existe pas. Et effectivement, ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'il y avait un petit, que sais-je, de Zvoronos, antédiluvien. Il y avait un professeur de Panteios Kontogeorgis qui avait écrit il y a une quinzaine d'années un petit bouquin dans une collection sur chaque pays de l'Europe, de l'Union européenne. Et donc, il y avait une histoire grecque. Mais en même temps, c'était une histoire grecque pour les Grecs. C'est-à-dire que c'est un Grec qui l'écrivait et il y avait des choses qui étaient supposées connu depuis toujours, qui fait que ce livre est, à mon avis, très difficilement lisible par des Français et qu'en plus, il est épuisé. Et il n'a jamais été réédité. Donc l'idée vraiment de départ, c'était de combler ce vide bibliographique que moi, j'ai ressenti la première fois que je suis allé en Grèce. C'est-à-dire que la première fois que je suis allé en Grèce, c'était à l'été 1973, j'avais 15 ans. Et c'était le moment où Papadopoulos faisait un référendum bidon sur le choix entre la République ou la monarchie. Et en arrivant à Athènes, on a vu qu'il y avait quelques chars à quelques carrefours pour montrer aux Grecs qu'on attendait qu'ils répondent d'une certaine manière et pas d'une autre. Et donc, quand je suis rentré, j'ai cherché un bouquin qui m'explique pourquoi ce pays qui était si proche de nous en était là alors que nous, on en était ailleurs. Et j'ai rien trouvé. Et après, pendant des années, j'ai surveillé tout ce qui sortait. Donc un jour, je suis tombé sur la thèse de Christophe sur le Parti communiste grec dans la guerre, qui m'a donné un coup de projecteur sur cette période-là. Une autre fois, j'ai retrouvé dans un magasin de livres d'occasion des vieux bouquins de Dominique Eudes ou d'André Kédros sur la même période. Et puis j'ai lu quelques livres en français qui étaient sortis sur la période des colonels à l'époque, racontant des destins particuliers de gens qui s'étaient retrouvés dans les prisons des colonels. Et puis, à un moment, je suis tombé sur Séphéris, un homme que je respecte beaucoup et que j'ai rencontré pour la première fois grâce à ce livre, il y a une dizaine de jours, qui s'appelle Denis Colère, qui a été le traducteur de Georges Séphéris, donc poète, mais aussi diplomate, prix Nobel de littérature, mais aussi homme politique, qui a joué un rôle plus ou moins important à différentes époques et qui surtout a tenu un journal très politique, qui a été en partie traduit en français au Mercure de France. Donc voilà, pendant des années et des années, pendant des décennies... Colère, un jour, a aussi traduit et fait paraître les mémoires de Macrianis, dont on reparlera peut-être tout à l'heure, un des combattants de la guerre d'indépendance. Donc tout ça, toutes ces choses-là, je les lisais au fur et à mesure qu'elles arrivaient en France, mais jamais il y avait de synthèse. Donc quand Gallimard m'a demandé ça, d'abord, je me suis dit, je ne suis pas capable de le faire, parce qu'effectivement, l'histoire était le métier d'historien était ma première vie, mais... Depuis une quinzaine d'années, j'étais passé au roman et donc c'était un peu retour vers le futur, quoi. Et puis j'ai dit, il y a des gens qui sont beaucoup plus compétents que moi, Christophe Chiclet par exemple, etc. Il me dit, mais non, mais tu comprends pas, ce qu'il faudrait faire, c'est quelque chose qui couvre l'ensemble de la période. Je te connais, tu... Enfin, bref, elle a réussi à me convaincre de la chose. Et puis, j'ai accepté un peu... Enfin, sans avoir conscience de l'ampleur du travail, en fait. Parce que si j'avais eu conscience de l'ampleur de la tâche, je crois que je m'y serais jamais lancé. Et en même temps... J'avais des choses à dire, c'est-à-dire que je savais qu'il y avait des choses que j'avais envie de dire. Et plus j'avançais dans ce livre, parce que j'ai signé mon contrat avant le début de ce qu'il est aujourd'hui convenu d'appeler la crise grecque. Et quand a commencé la crise grecque et que j'ai entendu, comme vous tous, ce déferlement d'idées fausses, de demi-vérités et de gros mensonges pour expliquer la thérapie de choc qu'on imposait à ce pays... Je me suis dit, effectivement, ce que je vais dire dans ce livre, peut-être ça va permettre de faire mieux comprendre aux Français quel est le rapport très complexe des Grecs à leur État, et un rapport des Grecs à leur État qui est fondamentalement différent de ce qui peut être dans un pays qui a derrière lui 1000 ans d'histoire et 1000 ans de conscience à tort ou à raison, que l'État est le défenseur de l'intérêt commun et qu'il est protecteur, etc., ce qui n'est pas le cas du tout, ce qui n'est pas le cas du tout des Grecs. Voilà. Donc du coup, il y a toute une série de motivations qui se sont ajoutées au fur et à mesure de l'élaboration de ce livre. Et puis, quand j'ai rendu mon premier plan, Antoine Gallimard, qui décide en fin de compte de si les livres se font ou pas, a dit oui, mais alors ça serait bien quand même qu'il élargisse au rapport avec l'environnement régional. Et alors là, j'avoue que j'étais un petit peu doublement... voilà, parce que l'éditrice m'a dit, tu comprends, il faudrait mettre le Kosovo. Ah, je lui dis, oui, mais alors tu comprends, si je mets le Kosovo, c'est toute la Yougoslavie qui suit derrière. Et donc, lui ai dit, je dis naïvement à ce moment-là, ça ne sera pas un volume, ça sera deux. Il dit, allons-y pour deux. Voilà. Donc on est parti comme ça, et au final, on arrive avec trois volumes, parce qu'effectivement... Quand on est arrivé au bout, on s'est rendu compte que la maniabilité, le fait de pouvoir les lire indépendamment l'un de l'autre, d'avoir des périodes qui soient cohérentes, que matériellement l'ensemble soit lisible, il fallait l'avoir en trois volumes. Et qu'en plus, les coupures chronologiques allaient très bien sur ces trois volumes. Donc effectivement, on est arrivé à ces trois volumes. Et encore, alors là aussi, si tu veux, le projet de départ, c'est Gallimard qui voulait le sortir directement en poche. C'est-à-dire que c'est une collection folio histoire où ils ont décidé, il y a une dizaine d'années, de sortir pour rendre un certain nombre de livres de base plus disponibles, plus facilement accessibles aux lecteurs, de les sortir directement en poche. Et j'avoue que l'entreprise était séduisante parce que parce que ça n'existait pas, parce que beaucoup d'étudiants qui sont dans des cursus de langue slave ou de langue grecque ou d'histoire. Je faisais une conférence la semaine dernière au Langzo, à l'Institut national des langues orientales. La prof de civilisation grecque qui m'a accueilli m'a dit « Mais ça fait 15 ans que j'attends ce bouquin-là. » C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je dis, en donnant des bibliographies à mes étudiants, « Il n'y a rien. » Et maintenant, je vais pouvoir leur dire « Il y a tout. » Et vous l'avez en 3 tomes. Donc c'est vrai qu'on est assez content du résultat. Et j'ajoute de l'accueil du public qui, moi, me surprend. C'est-à-dire que je me rends compte que ce livre, il avait un public qui l'attendait. Voilà. Voilà, sur l'élaboration, donc après...
Ben oui, d'autant plus que s'il y avait bien la fameuse encyclopédie grecque qui existait, qui était mais uniquement publiée à Athènes et en grec, et si mes souvenirs sont bons, au début des années 80, ça s'arrêtait à 1940. Je crois qu'ils ont fait encore 2 ou 3 volumes qui étaient bien, mais uniquement accessibles au public grec et en grec. Donc là, on était sur, je ne dis pas une terra incognita, mais comme a bien dit Olivier, il fallait grappiller à droite à gauche.
Alors, ce n'est pas un livre de chercheur. Hein. Ça, c'est sûr, je ne suis pas un chercheur de première main. C'est-à-dire que c'est un livre de passeur. C'est-à-dire que ce que j'ai voulu faire, c'est rendre accessible à tout le monde l'état actuel de la recherche. Donc, l'état actuel de la recherche. En tout cas, sur des tas de questions, est l'état actuel d'un certain nombre de questions historiographiques. Donc, j'ai voulu le faire pour des Français. Donc, ça, là, on est vraiment au cœur du truc. C'est-à-dire que quand on a commencé, j'ai demandé à mon éditeur pour qui est-ce que j'écris. Est-ce que j'écris pour des spécialistes de l'histoire de la Grèce ou est-ce que j'écris, elle m'a dit, tu écris pour l'honnête homme du 21e siècle, c'est-à-dire quelqu'un qui est curieux, qui a des idées mais pas de connaissances précises. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un travail qui soit accessible à tous. Alors, il y a une critique qui m'a fait un plaisir fou, qui est parue dans l'Histoire du mois de janvier dernier, en plus par un historien que j'admire beaucoup, qui s'appelle Maurice Sartre, que je ne connais pas, mais que je vais connaître grâce à ce livre, et qui a écrit que c'était une histoire extrêmement complexe qui se lisait comme un roman. Et c'est vrai que l'effort d'écriture, ça a été ça. C'est-à-dire que l'effort d'écriture, ça a été, moi, de lire beaucoup, d'emmagasiner, de savoir synthétiser, d'arriver à savoir ce que je voulais passer, encore une fois, et ensuite de le faire passer à travers une écriture qui soit la plus accessible possible, la moins jargonnante possible, à travers un récit. Alors, je suis de ces historiens qui, après Paul Venn, pensent que l'histoire, c'est avant tout un roman vrai et que c'est un récit qui se déploie. Alors, bien sûr, on fait des choix, bien sûr, on raconte avec ce qu'on est soi-même, avec sa propre subjectivité, mais voilà, en essayant d'être toujours fidèle aux sources. Et également, je dirais, en essayant de donner de la chair. C'est-à-dire que j'ai toujours essayé de joindre au grand mouvement, alors historique, politique, militaire, économique, puisqu'on touche un peu, on touche un peu à tout ça, aux interactions entre les différents États ou entre les différents peuples à l'intérieur des empires quand on est dans un monde d'empire, et en même temps à avoir de la chair, à avoir des figures de chair et de sang, et à montrer comment tel ou tel, dans tel ou tel moment de l'histoire, peut, par son parcours personnel, soit être symbolique, représentatif d'une époque, soit au contraire aller à contre-courant de ce qu'il est. Donc, par exemple, les deux chapitres sur la guerre d'indépendance grecque et sur les débuts de la Grèce contemporaine, je l'ai centré autour des mémoires de ce type qui s'appelle Makrianis, qui est un type extraordinairement attachant, analphabète, mais un analphabète imprégné de l'esprit des Lumières, de ces Lumières qui arrivent depuis l'Occident à travers la Grèce, justement parce que la Grèce, c'est un pays de navigateurs et de commerçants, que ces commerçants vont à Marseille, qu'ils commercent, mais qui ramènent aussi des livres et des idées, et que c'est par là que ces idées vont diffuser dans les Balkans. Et c'est pour ça que la Grèce, pour moi, a un rôle fondamental, qui n'est pas un rôle marginal dans les Balkans, mais qui a un rôle central, parce qu'elle est cette espèce de filtre par lequel les idées circulent dans un sens à la fin de la, dans un sens à la fin du Moyen-Âge, dans l'autre sens au XVIIIe siècle, au XVIIIe, XIXe siècle, et que donc... ce Makrianis, il est à la fois analphabète mais en même temps pétri par les idées des Lumières, et à la fin de la guerre d'indépendance, comme il ne veut pas passer par le filtre d'un érudit dont il est persuadé qu'il va trahir ce qu'il raconte, ce type apprend à écrire phonétiquement pour raconter lui-même sa guerre d'indépendance, et il le fait avec un vocabulaire extraordinairement dru, vivant, puissant. Donc, du coup, mon chapitre sur la guerre d'indépendance n'est pas calqué sur Makrianis, mais il s'émaille de moments où Makrianis dit des choses que je pense caractéristiques d'un moment de cette histoire. Voilà. Et puis l'autre point important aussi pour moi, c'était d'arriver à maintenir l'équilibre entre la Grèce et les autres pays. C'est-à-dire d'arriver à tenir les deux fils. Parce que si l'histoire des Balkans de Castellan était, à mon avis, est très déséquilibrée, c'est-à-dire qu'elle donne 90%, 95% aux pays slaves et 5% à la Grèce, l'idée, c'était pas de renverser, de faire le contraire. Donc c'était d'arriver à avoir à la fois la vision grecque, la vision recentrée sur la Grèce, et en même temps d'avoir un équilibre avec les autres pays balkaniques. Et là-dessus, la professeure en question à l'INALCO la semaine dernière m'a dit qu'elle avait fait des sondages parmi ses collègues slavisants avec lesquels, là, semble-t-il, les rapports ne sont pas toujours faciles. Et que tout le monde lui avait dit, il est arrivé à peu près à maintenir la balance, donc voilà.
C'est qui l'INALCO maintenant ?
C'était Joël Dallègre qui m'a fait.
Ah, c'est Joël,
qui m'a invité à venir.
Mais oui, parce qu'on parle de personnages attachants comme Makrianis, mais on en retrouve un peu, et c'est aussi le problème de cette Grèce, parce que Makrianis est le représentant, on va dire, de la guérilla, si je me trompe, tu me le dis, mais un peu populaire.
Eh non, tout à fait ça.
Populaire, contrairement aux riches marchands et contrairement à une certaine aristocratie qui était basée à Iași, en Roumanie, etc. Et ce genre de type, on va le retrouver tout le temps, parce que le problème, c'est que déjà, il faut savoir que la guerre d'indépendance en Grèce commence en 1821, et de 1821 à 1949, nous avons à peu près 7 guerres civiles. trois à l'intérieur de la guerre d'indépendance, une en 1916-17 entre royalistes et républicains, les républicains étant soutenus par la France,
par la France et l'Angleterre.
Venizelos, et c'est là aussi où tout l'intérêt de l'ouvrage, parce que la Grèce n'est pas isolée, même si les Balkans, géographiquement, c'est un mont qui se trouve aujourd'hui en Bulgarie. Et puis on a parlé de la péninsule balkanique, et aujourd'hui, suite en particulier à l'explosion de la Yougoslavie, on a tendance à ne plus se souvenir ou à penser que la Grèce est aussi dans les Balkans. Hein, les Balkans, ça... Alors, moi, j'ai quelques amis slovènes, et ils étaient tout contents à l'explosion de la Yougoslavie. La première chose qu'ils me disaient, ils savaient que j'étais spécialiste de la Grèce, etc. Ah, tu sais, nous, Christophe, hein, on n'est pas balkanique. Hein. On est quoi ? Europe centrale. Bon. Jusqu'au jour où les Autrichiens sont venus les titiller pour des histoires de frontières. Et puis là, je leur ai dit, vous savez, si vous étiez balkanique, peut-être qu'on pourrait vous aider. Mais bon, c'est vrai que la Grèce a toujours été en relation au niveau commercial dans l'Empire ottoman avec l'ensemble de ses voisins, au niveau des conflits militaires et aussi, surtout au niveau des minorités. Il faut savoir qu'il y a dans ce grand bazar, le terme bazar n'est pas péjoratif, mais dans ce grand bazar qui était même parfois beaucoup plus démocratique, où les minorités pouvaient vivre les unes avec les autres, c'est ce qu'on appelle en ottoman le komchiluk, c'est-à-dire le bon voisinage. Et vous aviez des minorités slaves, albanaises, turques dans l'actuelle Grèce, et des Grecs en Roumanie, en Albanie, dans l'actuelle Macédoine ex-Yougoslave. Tout le monde était mêlé. Et alors le problème avec les États-nations, il y a un très beau livre sur la Bosnie de Xavier Bougarel qui explique le concept de komchiluk, c'est-à-dire que quand la Yougoslavie a explosé, en particulier en Bosnie, komchiluk est en bon voisinage, on est passé du bon voisinage au crime intime, parce qu'on a été tué le voisin avec qui on partageait les fêtes musulmanes et chrétiennes.
C'est très intéressant de voir comment, justement, dans cet espace géographique, les communautés... comment dire, les communautés fonctionnent par interpénétration les unes les autres. C'est-à-dire que, par exemple, on voit très bien que les premiers journaux serbes sont édités par des éditeurs grecs. Parce que les Grecs sont les premiers à ramener de l'Occident, parce qu'ils voyagent plus que les autres, à ramener de l'Occident l'idée de la presse et de l'édition. Donc on va avoir les premiers journaux serbes sont imprimés sur des presses grecques. Les premiers livres édités en Roumanie, qui n'est pas encore la Roumanie, qui sont les principautés danubiennes, sont à l'époque gouvernés par des princes ottomans qui sont des Grecs et qui vont protéger les élites locales, qui vont ensuite donner un nationalisme qui va être à la fois anti-turc et à la fois anti-grec, parce que on se dresse forcément contre celui qui est là. Donc y a un jeu comme ça très, très subtil un peu partout. Et en même temps, quand on voit par exemple à la fin de la Révolution française, dans les dernières décennies du XVIIIe siècle, Il y a une société secrète. Alors, il va y avoir beaucoup de sociétés secrètes dans les Balkans. Mais il y a une société secrète qui est fondée par un Grec. Mais par un Grec qui a vécu la plupart du temps dans l'espace roumain, qui s'appelle Rigas. Et dans cette société secrète, il va vouloir fonder une république, ce qu'il appelle une république hellénique. Mais en fait, quand on regarde le projet de sa république hellénique, c'est une espèce de république fédérale dans laquelle tous les peuples seraient égaux et représentés à égalité à partir du suffrage universel, parce que bien sûr il y a toutes les idées de la révolution qui viennent et qui diffusent à ce moment-là, avec même l'idée du suffrage universel féminin. Hein, ce qui même à l'époque en France et en Occident est fait fort peu partagé. Et donc il y a dans cette société secrète tous les gens des Balkans, c'est-à-dire que il y a des Bulgares, il y a des Roumains, il y a des Monténégrins, il y a des Serbes, des Albanais. Il y a une dizaine d'années un colloque sur Rigas à l'UNESCO. On voit aujourd'hui chacun tirer Rigas vers lui. C'est-à-dire que les Roumains voudraient qu'il soit plus roumain, parce que c'est un peu le père fondateur de toutes ces idées. Et en même temps qu'on a l'affirmation de ces États-nations balkaniques, alors c'est très compliqué parce que ces États-nations balkaniques, ils sont aussi issus de la volonté de liberté. C'est-à-dire qu'ils sont issus de la volonté de s'émanciper d'un système ottoman qui est un système d'inégalité entre les chrétiens et les non-chrétiens, qui est un empire qui ne trouve pas les voies de la modernité, qui les cherche, mais qui n'arrive à les définir ni en matière d'éducation, ni en matière d'économie, ni en matière de sciences. Et donc, la naissance des États-nations, c'est un peu l'incapacité de cet État ottoman à se moderniser et à offrir une égalité politique, des droits individuels et des droits publics que ces nations, que ces peuples qui sont en contact avec l'Occident veulent avoir pour eux, mais qu'ils n'arrivent pas à trouver dans le cadre ottoman, et qu'ils vont trouver dans le cadre national. Alors, plus ou moins bien, plus ou moins difficilement, plus ou moins épisodiquement, etc. Mais quelque part, l'aspiration au cadre national, c'est d'abord ça, et on le voit bien chez les Grecs. Et en même temps, je dis toujours que dans les premières assemblées de la Grèce indépendante, on parle autant albanais qu'on parle grec. C'est-à-dire que... Il y a des Albanais un peu partout, il y a des Monténégrins qui viennent, des Monténégrins et des Serbes qui viennent se battre avec les Grecs pendant leur guerre d'indépendance. Il y a des Grecs qui vont se battre avec les Serbes contre les Turcs au moment de la révolte de Karadjordje en 1804. Donc il y a une interpénétration qui est assez permanente. Alors après, c'est vrai que la révolution grecque, la guerre d'indépendance grecque, c'est une révolution. C'est-à-dire que c'est une guerre d'indépendance, mais c'est aussi une révolution sociale. Et donc, comme tu le disais, ça fonde des antagonismes sociaux. Alors, tu dis jusqu'en 47, mais moi, j'irais presque au-delà. Hein. C'est-à-dire que la dictature des colonels, c'est encore un épisode... c'est un épisode supplémentaire d'une guerre civile larvée qui est plus ouverte, mais qui est larvée. Et quelque part, aujourd'hui... Il y a une guerre du peuple contre ses élites en Grèce qui n'est pas loin d'une situation, même si elle n'est pas violente, même si elle n'est pas armée, en tout cas pas pour l'instant, qui n'est pas loin de ça. Donc c'est vrai qu'il y a, dans cette révolution grecque qui ne s'est jamais achevée comme une révolution Et elle ne s'est pas achevée comme une révolution parce qu'il y a eu des interventions étrangères qui ont donné l'indépendance, mais qui n'ont pas permis à la révolution de s'achever comme elle aurait pu s'achever autrement. Et donc, on a dans l'histoire grecque, mais aussi dans l'histoire d'autres pays balkaniques, le retour de ces épisodes violents où la société se divise contre elle-même avec, tout au long de la période et singulièrement au long du XXe siècle, une série d'épisodes quand même tout à fait tragiques, avec tout au long de cette période aussi, tout le temps. Et ça, moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus parce que je trouve que c'est une chose sur laquelle l'historiographie traditionnelle n'insiste pas, pas assez. C'est-à-dire que quand même, l'histoire des peuples de cette région est très largement conditionnée par les ingérences extérieures, c'est-à-dire par les ingérences des impérialismes. Alors, russes, austro-hongrois, anglais... qui sont sur la guerre civile américaine ensuite, enfin anglo-saxon, anglais puis américain, allemand évidemment, l'épisode de l'occupation qui a été particulièrement tragique dans cette région. Enfin, il ne faut jamais oublier quand même que, à part la Pologne, la Yougoslavie et la Grèce sont quand même les deux pays qui ont subi l'occupation la plus destructrice, sauvage, barbare. Tout ça laisse des traces dans les sociétés qui ne sont pas effacées et qui ne sont pas prêtes de s'effacer. Et ça laisse aussi des traces dans les comportements et dans le rapport à l'étranger. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour beaucoup de Grecs, ce que probablement les gens de Bruxelles ne voient pas ou ne veulent pas voir, quand je dis de Bruxelles, je pourrais dire de Bruxelles et de Berlin, c'est que pour beaucoup de Grecs, les politiques qui sont aujourd'hui imposées par l'Union européenne sont un épisode supplémentaire dans ce qu'ils appellent la xénocratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'étranger, les ingérences de l'étranger qui, depuis l'indépendance, n'ont cessé de perturber le développement interne de ces pays. Donc moi, j'ai vraiment voulu beaucoup insister sur cet aspect-là, insister à la fois sur les dynamiques internes des sociétés, mais également sur la manière dont les États occidentaux et russes sont intervenus tout au long de cette histoire longue réorienter, influencer, empêcher des évolutions à l'œuvre interne, sociale, politique, économique, etc.
En guise de conclusion, il y a un dicton en Grèce. Quelles sont les trois plaies de la Grèce ? Les politiciens, les avocats et les chèvres.
Pour les chèvres, c'est vrai, dans mon île, elles bouffent tout.